Bonjour à tous. Bienvenue donc pour ce troisième jour des rencontres d'Ancre et d'Exil, huitième édition consacrée à l'Afrique. Donc j'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi Alain Mabankou et Abdourahmane Awaberi. J'excuse donc Monsieur Elon Abila a eu un empêchement de dernière minute, donc n'a pas pu prendre son avion vendredi pour venir nous rejoindre. Nous en sommes désolés. Voilà, donc je laisse la parole à Nathalie Carré qui va animer cette rencontre. Bonne journée et merci d'être là.
Et merci en effet d'être là assez nombreux, malgré le froid et ce début d'après-midi. Alors en effet, Elon Abila n'est pas là, mais c'est pas grave, on a deux grands auteurs à nos côtés pour parler en effet du rêve américain. Donc le rêve américain, ce n'est plus trois parcours, mais deux parcours. Alors je vais vous présenter les invités. Donc à ma gauche, Abdourahmane Awaberi, qui est né à Djibouti, qui a déjà une longue œuvre derrière lui, beaucoup marquée, comme on l'a rappelé ces derniers temps, justement par les thématiques du nomadisme, de l'exil. En particulier, son œuvre avait commencé avec la trilogie « Le pays sans ombre »,« Le cahier nomade » et « Balbala », qui sont absolument des petites merveilles. Si vous les avez pas lues, je vous les recommande. Et donc, il a aussi beaucoup bougé. Il a quitté Djibouti, je crois, en 85. Et il est arrivé en France, où il a été professeur d'anglais. Il a vécu donc en France. En 2007, il a reçu une assez prestigieuse bourse, la Berliner Künstler Programm. Donc, il est parti pour un an à Berlin, en résidence d'écriture. Et l'an dernier, il était à Boston, si je ne m'abuse. Et maintenant, de retour en France. Provisoirement, voilà. Alors, à mes côtés, on a souvent dit qu'on ne le présentait plus. En effet, mais si, on l'a encore dit hier. Donc, Alain Mabankou, né au Congo-Brazzaville, qui a écrit énormément de romans, de poésie aussi, qui a eu, vous le savez peut-être, le Renaudot pour « Mémoire de porc-épic ». C'était pas cette année, mais l'an dernier, et qui a écrit, entre autres, un truculent vers cassé, dont il nous lira, je pense, un extrait à la fin de cette rencontre, et qui a aussi écrit une lettre à Jimmy, donc où il s'adresse à l'écrivain James Baldwin, pour nous mettre dans l'itinéraire américain. Et donc, Alain Mabankou, en fait, a quitté le Congo-Brazzaville pour venir s'installer en France. En fait, il est jusqu'en 2002, où en 2002, il est parti pour les États-Unis, d'abord l'Université du Michigan. Et maintenant, il enseigne les littératures francophones à la grande université UCLA. Voilà. Donc, deux personnes qui sont passées par la France pour repartir ailleurs et qui connaissent évidemment les États-Unis. Donc, avant toute chose, comme il n'est pas là, je vais juste vous lire un petit extrait du livre d'Elon Abila. Donc, c'est une traduction. Elon Abila est nigérian. Il vit lui aussi maintenant aux États-Unis. Donc, un extrait de son premier roman, En attendant un ange. Alors, pour vous situer l'extrait, le livre raconte la vie de Lomba, qui est un jeune homme qui vit sous le régime d'Abacha. Ça a été des années de terreur au Nigeria, de dictature. Et donc, il rêve d'être écrivain. Il a participé à une manifestation et il est recherché par la police. Et je ne trouve plus la page, bien évidemment.
Ça doit être
là. Non. Oui, mais c'est pas cela.
Oui. Elon Abila est un jeune écrivain du Nigeria, né en 67. Il a été remarqué, il a écrit beaucoup d'articles dans la presse, au départ dans les Vanguard, je crois, de Lagos. Et c'est quelqu'un qui rêvait d'écrire, qui avait écrit beaucoup de poésie. Et il y a quelques années, il avait eu un prix intéressant qui s'appelait le Kane Prize for African Literature. African Fiction, je crois, lequel prix a lancé Elon Abila. Et la nouvelle qui avait gagné les prix est extraite de ce roman. Et c'est une histoire assez intéressante, puisque c'est un prisonnier, un jeune journaliste emprisonné, qui écrit des lettres d'amour au chef de la prison. Lequel chef de la prison veut séduire une jeune femme. Et donc, c'est une histoire de... on va dire, assez à la fois touchante, puisque c'est par les lettres, le mot du prisonnier que le matant en chef séduit, n'est-ce pas, la belle demoiselle.
Exactement. Et donc là, c'est le moment, avant d'être emprisonné, où il est recherché par la police, qui vient à la maison, et c'est un jeune homme, le narrateur, qui est là, qui est plus jeune que lui, qui est interrogé pour savoir où est Lomba. Et de là, où comptait-il aller ? En Amérique, répliquai-je sans hésitation. Je lus de la surprise dans les prunelles de ma tante. Les deux hommes échangèrent un regard. En Amérique ? Est-ce que c'est lui qui t'a dit ça ? Non, non, c'est juste une supposition, dis-je en secouant la tête. Pourquoi ? Je sentis de la retenue dans cette question. À présent, ils essayaient de se plier à la vision de l'enfant plein d'imagination qu'ils avaient en face d'eux. Parce que c'est là que vont les gens quand ils ne peuvent pas vivre dans leur pays. Ils vont y chercher refuge. Je vois, comme c'est intéressant. Ils essayaient toujours de se prêter au jeu. La tension dans l'air avait diminué. Mais Kéla, est-ce que tu ne crois pas que l'Amérique, c'est un peu trop loin ? Il faut traverser tout un océan avant d'y arriver, dirent-ils en riant. Je secouai patiemment la tête et poursuivis. Non, ce n'est pas un océan, c'est juste un ruisseau. Il vous suffit de l'imaginer. Attendez-moi, je reviens. Je me précipitai dans ma chambre et en ramenai mon atlas que j'étalai devant eux. Ils étaient amusés et un peu intrigués par mon sérieux. J'expliquai en montrant du doigt. Là, c'est l'Afrique, là, le Nigeria, et ici, c'est Lagos. Puis, je dessinai une ligne et repris. De l'autre côté, il y a l'Amérique. Si on pouvait, par un tour de magie, faire rétrécir l'océan et le réduire à un ruisseau, il suffirait pour atteindre la côte américaine d'un petit pont. On pourrait vraiment y aller à pied. Ils rirent et se levèrent pour prendre congé. Mais si on y réfléchit, dis-je, il suffit d'un peu d'imagination pour découvrir que les choses ne sont pas aussi figées et impossibles qu'on pourrait le croire. Alors, ben moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est puisqu'on est dans le rêve américain, ben quand vous êtes arrivé en Amérique avec vos bagages, alors soit pour un temps défini, soit pour un moment plus long, voilà, qu'est-ce que vous aviez comme mythologie en tête ? Est-ce que le rêve américain était là ou pas du tout ?
Merci donc de nous donner cette opportunité ici de parler de l'Amérique. Quand je suis arrivé en 2002-2001 aux États-Unis, bien entendu, j'étais arrivé chargé de toutes ces idées qu'on a, puisque l'Amérique, on la voyait à la télévision, c'était des scènes de poursuite de la police avec des prisonniers, c'était des sirènes partout, c'était des alertes à Malibu, c'était les cinémas d'Hollywood, c'était la chaise électrique, des prisons bourrées de personnes de couleur, j'allais dire de noirs. Donc, c'était à la fois un pays rêvé, mais dont l'image d'Épinal était une espèce de catastrophe. Et finalement, lorsqu'on arrive, on se rend compte que les gens qu'on va croiser sont des gens normaux comme nous, qu'ils se lèvent le matin, ils vont au travail, ils mangent, ils discutent, qu'il y a même des voisins qui vous disent bonjour, et parfois on vous dit même bonjour systématiquement là-bas qu'ici, et que au fur et à mesure, en entrant dans cette espèce d'Amérique, on se rend compte que c'est un pays qui est composé d'une pyramide d'ethnie, entre guillemets, même ils parlent d'ethnie, de couches de population venues d'ailleurs, tout simplement, à la différence de beaucoup de continents, l'Amérique est un territoire de peuplement. Donc les gens sont venus de part et d'autre. On passe le fait qu'on a laminé les autochtones. Donc de ce fait, différentes couches de population devraient se rencontrer et vivre ensemble. Mais on voit aussi par la suite que ces populations parfois ne vivent pas tellement ensemble, puisqu'il y a des quartiers pour latinos, des coins pour noirs, des endroits luxueux, la 5e avenue à New York ou tout simplement Beverly Hills. Hein. C'est-à-dire que lorsque un noir américain qui vivait dans un quartier chaud de Los Angeles devient célèbre et riche, tout de suite il emménage vers les collines d'Hollywood où vit à côté de Beverly Hills tranquillement avec sa piscine, parce que c'est l'instinct même de tous ceux qui ont une espèce de droit de propriété très élevé et on a peur maintenant de l'entourage. Ce que j'avais constaté aussi, c'est que c'était un pays d'ouverture. C'est-à-dire que lorsqu'on arrivait, la question fondamentale de la race ou de l'origine est certes là, mais il est aussi intéressant de voir que lorsque vous avez quelque chose, l'Amérique a besoin de cette chose pour faire avancer le pays. Et de ce fait, la barrière raciale peut à ce moment tomber et votre origine peut également tomber. Il n'y a qu'à voir parfois certaines règles. Quand vous allez pour faire les papiers à l'immigration, déjà vous êtes content parce que vous rentrez dans une salle où il y a les photos de tous les étrangers qui ont fait les États-Unis. Donc vous voyez les Albert Einstein qui sont venus là, les Nabokov, ainsi de suite. Ça vous rassure puisque c'est écrit là-bas, voilà ceux qui ont fait les États-Unis. Donc j'aimerais bien que voir ça aussi à la préfecture de Bobigny en France, hein, qu'on mette voilà ceux qui ont fait la France avec quelques tirailleurs sénégalais, quelques Abdourahmane Ouabéry et compagnie à côté.
En basse Normandie.
En basse Normandie, voilà, tout à fait. Donc on voit en quelque sorte cette ouverture. Donc j'étais arrivé comme une espèce de touriste et puis je me suis retrouvé dans un pays où j'ai senti que je pouvais non seulement mieux faire exprimer le bagage que j'avais reçu aussi bien en Afrique qu'en France, puisque je dis toujours que l'Afrique, c'est la terre, c'est là où il y a le nombril. Hein. L'Europe, en quelque sorte, c'est le continent de l'adoption, tandis que l'Amérique, c'est l'endroit où je peux apercevoir et l'Europe et l'Afrique au même moment. Je me suis dit que pour un écrivain, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'être quelque part où on regarde de loin les deux continents qui sont essentiels dans sa formation culturelle et pouvoir peut-être à ce moment donner même un autre sens, une autre dimension à ses écrits. Et de ce fait, je n'ai pas particulièrement assisté à plusieurs barrières puisque j'étais arrivé comme écrivain en résidence, comme l'a fait l'année dernière Abdourahmane Ouabéry dans le prestigieux collège. Collège, ça ne veut pas dire collège comme ici, mais université de Wellesley, où a d'ailleurs étudié Hillary Clinton. Voilà.
Margaret Albright aussi.
Voilà, et Madeleine Albright. Donc, il est bien placé pour être ministre des Affaires étrangères, si ça continue comme ça. Donc, j'ai senti cela. Je suis arrivé comme écrivain. J'ai commencé à faire mes conférences comme écrivain. Je ne parlais pas l'anglais à l'époque, ils ont été patients jusqu'à ce que je suis allé apprendre l'anglais dans la rue, hein, ce qui n'est pas évident. Vous savez qu'en France, quand vous ne parlez pas le français, il est pressé. Il dit, mais comment, celui-là, il ne s'est pas accordé le participe passé. Oh non, tu ne me parles pas, ça passe directement. Et donc, j'ai appris tout cela au fur et à mesure. Et comme ils ont estimé qu'ils avaient besoin aussi, dans cette université, d'une ouverture vers les littératures africaines, francophones en général, c'est à cet instant qu'ils m'ont proposé, écoutez, on a 6 mois de cours à faire ici, si vous pouvez imaginer une espèce de série de conférences, de cours avec les étudiants de premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, une espèce d'introduction aux littératures africaines et ça nous serait d'une grande utilité. Et c'est ce que je me suis mis à faire. J'étais comme un étudiant. Je suis allé voir comment se faisaient les cours parce que tu les prépares ton syllabus, qu'ils appellent. C'est-à-dire que l'étudiant américain, quand il arrive en classe, il doit savoir ce qu'il fera lundi à 10h30, quelle page il ira dans quel livre, quels articles il ira fouiller, quel film tu vas projeter dans la classe, combien d'heures durera, combien de pages il faudra pour le devoir. Donc, tout est chronométré du premier jour jusqu'au dernier jour. Donc, on doit arriver en classe avec une espèce de feuille de route, avec tout à la rigueur, et puis remettre aux étudiants. Et le professeur doit être rigoureux pour suivre justement cette feuille de route parce que souvent les étudiants, pour être en avance, peuvent déjà acheter les livres, programmer les choses, préparer les films, ainsi de suite. Donc, dès qu'on arrive, c'est quelque chose déjà de réglé. Donc, j'ai vécu cette expérience d'enseignement qui s'était bien passée. Et finalement, puisque j'avais demandé à la France un an de congé sabbatique. Lorsque les Américains m'ont dit, bah, écoute, si tu veux rester, tu restes, eh ben, je suis finalement resté puisque ça me permettait non seulement de ne plus faire du droit, puisque vous savez que j'ai fait des études de droit à Dauphine, ça me permettait de faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire la passion des livres, inciter les Américains à connaître plus l'Afrique, à lire la littérature africaine, non pas seulement en traduction, mais aussi en version française, puisqu'ils parlent français, les étudiants dans les grandes universités, il y a des départements. Et de ce fait, j'ai préparé ce cours, une introduction à la littérature francophone, puis j'ai introduit un cours sur la nouvelle génération, dans laquelle j'incluais Waberi, Rari Manana, Kani Alem, Sami Tchak. Donc, pour la première fois pour ces étudiants, il y a eu cet enseignement. Et finalement, je suis resté 3 ans au Michigan. Et par la suite, en 2006, lorsque j'ai eu l'offre de Los Angeles, je me suis dit ça ressemble à mon pays parce qu'il y a le soleil, il n'y a pas la neige, il y a les cocotiers. Donc, je peux lier l'utile à l'agréable. Donc, j'ai dû laisser le Michigan, trop de neige tue l'amour, hein, pour parodier trop de soleil. Ça, il faut retenir, c'est un bon titre pour le livre. Hein. Trop de neige tue l'amour. Bien. Donc voilà, c'est ce qu'il faudra retenir. Donc depuis 2 ans, je suis à l'Université de Los Angeles, une autre expérience, parce que dans les grandes villes comme Los Angeles, New York, Washington, ce qui est important, c'est le carrefour un peu de la culture. On a souvent tendance à considérer des Américains comme des imbéciles qui ne connaissent rien que leur pays. Et là, je vous dis que j'ai découvert l'art contemporain, l'architecture, la musique, parce qu'il y a un brassage des populations. La plupart des créateurs du monde entier viennent dans ce carrefour pour confronter leurs arts. Donc, il y a les grands musées comme le musée Getty, où vous pouvez aller voir des toiles qui viennent parfois du musée du Louvre, qui louent pendant une année pour montrer aux Américains, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est un passage important pour le créateur, mais il y a aussi certains défauts qu'on pourra souligner plus tard.
D'accord, merci. Et Abdourahman Waberi, des rêves d'Amérique plein la tête ou pas du tout? Des images d'Harlem Renaissance
Oui. Elle a presque tout dit. Non, je voudrais commencer par remercier la bibliothèque BPI, Centre Pompidou et Florence Verdeuil, ici présente, pour avoir initié cette série de rencontres qui s'appelle d'exil, d'encre et d'exil. J'avais assisté à la première et je vois que ça se poursuit depuis une huitaine d'années. Donc, c'est une histoire qui marche. Et c'est, on va dire, c'est focus sur les littératures africaines tombe à point nommé. De même que tombe à point nommé le débat, le rêve américain, on a l'impression d'être dans le rêve d'Obama. Hein, maintenant, tout le monde est... Vous avez remarqué combien, il y a quelques semaines, on était tous, on va exagérer en disant, américanophobes, n'est-ce pas? Les Américains se demandaient, mais pourquoi on ne nous aime pas? Et en quelques semaines, maintenant, nous sommes tous américanophiles. Personne ne pourrait me dire, maintenant, j'aime pas l'Amérique. On ne l'avoue plus. Donc, on a tous été portés par le rêve de « Yes, we can so, ». Mon intérêt pour l'Amérique est un peu plus ancien parce que j'avais fait des études exprès quand je suis arrivé en 85 en Basse-Normandie à l'Université de Caen. J'avais pensé que je parlais déjà assez bien les français que j'avais étudié dans l'école française, celle qui est héritière de ce que j'appelle les barbichettes de la Troisième République, puisque Djibouti a été décolonisé en 77, 17 ans après les indépendances africaines, et on avait encore ces legs français, et particulièrement dans l'éducation nationale, où on avait encore des baccalauréats estampillés, Bordeaux, Marseille, Lille et autres Franche-Comté. Donc je me suis dit, finalement, si je passe 4 à 5 ans en France, puisque j'allais rentrer à Djibouti et travailler, contrairement à ce que Sarkozy croit, les gens ne viennent pas manger les pains des Français, ils viennent juste pour un temps, pour faire quelque chose. Et moi, la chose que j'avais à faire, c'était prendre un diplôme, une maîtrise de, en gros, presque de que n'importe quoi pour enseigner à Djibouti. Et j'avais eu cette réaction un peu de cette intuition en me disant, mais si j'ai fait lettres modernes ou philosophie, j'aurais eu l'impression de ne pas apprendre grand-chose. Enfin, j'avais l'impression, bêtement, que je connaissais déjà assez bien le français, la littérature française. Et donc, finir après un parcours de 4 ans, Après un mémoire sur les paysages chez Zola ou chez Flaubert en Normandie, j'avais l'impression de peut-être pas avoir appris quelque chose. Et donc, cette réaction, je me suis dit, tiens, je vais faire autre chose. Et j'ai appris, enfin, j'ai choisi une maîtrise de, à l'époque, ça s'appelait Lettres vivantes étrangères. Et donc, très vite, mon intérêt pour la civilisation américaine, notamment l'histoire américaine, la littérature américaine, était déjà chevillé au corps, n'est-ce pas ? Donc, j'avais déjà le rêve américain depuis assez longtemps. Donc, après, je suis allé plusieurs fois avant cette dernière et longue période. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a, outre la niche académique, l'université américaine est très formidable, a beaucoup de ressources. Elle est diverse, on peut même pas on a du mal à la décrire, puisque chaque université, chaque collège, chaque université, qu'elle soit publique, comme ils appellent state universities, ou privées, qu'elle soit collège, c'est-à-dire les quatre premières années d'études, ou université, chacune a presque sa politique, chacune a ses programmes, ses syllabes, et ses ambitions. Donc c'est vraiment formidable pour les gens qui sont dans cette profession-là, c'est-à-dire les écrivains et les universitaires. C'est vraiment indépassable, et ce n'est pas seulement de la publicité. Il suffit de voir le classement qu'a fait cette université de Shanghai, où notre première université arrive, je ne sais même plus, en France, j'entends. Je crois que c'est l'école normale supérieure qui arrive dans les 50 premiers. Je ne sais même pas si elle est dans les 50 premiers. On voit que toutes les 40 premières places sont trustées, comme on dit, par les Américains. De temps en temps, il y a l'université d'Oxford ou de Cambridge au Royaume-Uni qui arrive à rentrer dans la bataille, mais sur ce plan-là, ils sont indépassables. Autre chose très intéressante aux États-Unis, c'est, comme disait Alain, c'est un pays monde. C'est-à-dire, à la limite, contrairement à ce qu'on croit souvent, enfin en France ou ailleurs, quand on est un peu américanophobe, n'est-ce pas, on voit toujours ces clichés, puisqu'il y a des raisons d'être aussi anti-américain d'une certaine manière, parce que les Américains ont dominé politiquement, économiquement et diplomatiquement le monde. Donc, on avait toujours eu ces images de gens qui envahissaient, que ce soit Grenade, que ce soit Pinochet, que ce soit aujourd'hui Somalie, Afghanistan, Irak. Mais quand on vit aux États-Unis, évidemment, ça, c'était vraiment pas un épiphénomène, mais c'est quelque chose de très lointain. Ça n'a rien à voir avec la vie réelle des 360 millions d'Américains. Et ce qui est réjouissant, je pense, c'est qu'il y a des Amériques, c'est un pays d'immigration perpétuelle. Par exemple, j'étais à Boston et j'avais retrouvé 7000 Somaliens. Moi, je suis de langue somalienne, je suis djiboutien. J'irai à Columbus, Ohio, et je vais retrouver une communauté congolaise des pointes noires. Et donc, tu peux vivre dans la communauté congolaise des pointes noires de Cincinnati, Ohio, tout en étant pleinement américain et en vivant à la fois au Congo et en Amérique. Ça, c'est quelque chose qui est assez jouissif, je dirais. Et évidemment, on voit bien que le rêve américain, quand c'est des francophones qui le disent, on voit bien en creux ce qui se joue aussi, c'est-à-dire c'est le repoussoir de la France d'une certaine manière, cette France qui depuis 10 ans, 15 ans maintenant, avait fermé ses frontières aux étudiants, par exemple, et que maintenant les étudiants africains, ils rêvent plutôt de Vancouver, ils ne viennent pas à l'université de Troyes ou de Limoges, ils rêvent plutôt, s'ils ne veulent pas atteindre UCLA, ils veulent atteindre au moins une autre université américaine ou canadienne. Donc on voit bien que ce qu'on appelle les rêves américains ici, c'est aussi en creux, encore une fois, une discussion toujours passionnée, puisque nous sommes des Français et des francophones, une discussion passionnée avec la France.
Oui, je pense qu'en effet, il y a tous les rapports entre la France, les États-Unis, qui sont là, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a énormément, il faut le dire, d'intellectuels et d'écrivains africains qui sont arrivés, et pas seulement.
En fait, les francophones, c'est qu'aujourd'hui. Il y avait déjà une tradition d'attraction de tous les intellectuels, puisque les anglophones, ils avaient fait en partie leurs études là-bas, ou ils avaient fait au Royaume-Uni, mais comme ils étaient dans la même sphère culturelle, linguistique, c'était très normal, très naturel que Achebe enseignait à Rutgers et après à l'université de Massachusetts. Maintenant, il est à Bard College. Il enseignait ça dès les années 81, je crois. Donc, c'était pour eux tout à fait naturel. Et c'est vrai que les plus grands créateurs africains, quel que soit d'ailleurs le domaine d'intervention, sont basés aux États-Unis. Donc, en France, dans notre sphère francophone, ça arrive depuis une petite dizaine d'années, on va dire. On voit maintenant Édouard Glissant, Assia Djebbar, Maryse Condé, Achille Mbembe, Alain Mabankou, n'est-ce pas, sont aux États-Unis.
Et justement, dans cette façon, puisque finalement vous avez vécu les deux, c'est vrai qu'il y a aussi deux modèles en contrepoint, c'est-à-dire l'Amérique dont on dit souvent, enfin anciennement ségrégationniste, qu'on voit souvent de l'extérieur comme communautariste, et la France avec ses grands idéaux universalistes. Et finalement, dans les faits, comment est-ce que ça se passe et où est-ce qu'on trouve mieux sa place, ou est-ce que, enfin, qu'est-ce que vous a apporté les États-Unis par rapport finalement à la France, justement?
Il y a un fait très réel, une fois que vous avez traversé la frontière, quelle qu'elle soit d'ailleurs, les barrages de police, et, vous n'êtes plus rappelé à quelque identité, assigné à quelque identité. Personne ne vous demandera, si un policier vous demande une carte de chez vous, ça n'existait même pas, mais enfin, vous demandez une pièce d'identité, ça ferait un délit. Donc c'est vrai qu'on a un sentiment de liberté totalement, mais ça pas seulement, enfin pour tout le monde, une fois qu'on a traversé la frontière, vous êtes personne ne vous demande quoi que ce soit, vous êtes un Américain, enfin vous êtes supposé être quelqu'un qui vit sur cette terre, et donc même si vous êtes d'origine étrangère, vous avez l'impression d'avoir les mêmes droits et les mêmes existences que n'importe quel Américain lambda.
La question, pour tout Africain qui va là-bas, il constate que la question noire est une question qui est abordée. C'est-à-dire que ce n'est plus une espèce de question de tabou. Dans la société, vous l'avez, il y a certaines règles qui ont été édictées concernant ce qu'ils appellent les minorités, des règles dont on peut discuter peut-être l'intérêt. Et le fait aussi que on sent quand même la tradition d'une certaine lutte, c'est-à-dire que c'est pour ça que ça me fait sourire lorsqu'on voit une espèce de superposition entre la condition, on en a discuté avec Pape Ndiaye au Mali, entre la condition des Noirs en France et la condition des Noirs américains aux États-Unis. Souvent, on se dit, ben voilà, nous autres les Noirs de France, il va falloir qu'on suive l'exemple de nos frères noirs américains. Mais c'est gommer, en quelque sorte, l'origine même des noirs américains aux États-Unis, l'histoire qui a été la leur tout au long de ces années, et le fait que c'est très différent, les raisons de l'arrivée des populations noires, aussi bien en France qu'aux États-Unis. D'un côté, vous avez ce qu'on appelle les grands voyages de l'esclavage, de la traite des Noirs, de tout ce qui s'est passé. Donc, ces Noirs qui ont été peut-être entraînés en quelque sorte aux États-Unis de force. Et de l'autre, vous avez en France une multiplicité de mobiles de résidence des Noirs en France. Certains viennent de la génération, peut-être les arrière-arrière-petits-fils des tirailleurs sénégalais, d'autres sont venus pour des mobiles politiques, d'autres encore pour des mobiles économiques. Il y en a qui sont venus en France pour faire les études, dans l'espoir de retourner servir leur pays en Afrique, mais finalement qui sont restés parce que leur pays ne pouvait pas peut-être héberger toute la matière qu'ils avaient acquise, ou bien que le pays menait une politique telle que les conditions n'étaient plus sur place. Dans ces conditions, le type de revendication aussi est différent. C'est-à-dire que quand vous arrivez en France, quand vous réclamez un droit en disant que ça, c'est un droit que veulent les Noirs, mais seulement le problème, c'est que les Noirs ne se comprennent pas, puisque chacun n'est pas venu dans ce territoire pour la même raison. Donc lorsque les intellectuels noirs de Sciences Po font une manifestation, les sans-papiers ne comprennent pas de quoi il s'agit. Et lorsque les sans-papiers font leur manifestation, il y a certains intellectuels qui disent « ça ne me concerne pas, j'ai les papiers ». Donc il y a une espèce de vie parfois individuelle qui paralyse une action qui serait collective, alors que lorsque les Noirs américains sont touchés par une injustice donnée, tout de suite, l'injustice touche l'ensemble de la communauté, puisqu'on se reconnaît dans l'identité du voyage et qu'on menace en tant que tel toute une espèce de population qui était arrivée sur le territoire pour, par force, en quelque sorte. Donc il y a discussion peut-être interne à faire. Je reste persuadé que les Noirs de France ne se connaissent pas. La grande question de la condition noire, c'est que les Noirs de France ne se connaissent pas et ont l'illusion qu'il suffit d'être noir pour former une espèce de condition noire. Et dès qu'ils vont à la table des négociations, eh ben les intérêts individuels ressortent. C'est-à-dire, celui-là veut être le chef de telle association, mais en attendant, il va encore négocier avec tel parti politique qui lui-même n'a pas dans son rang des Noirs qui dirigent quelques sections quelque part, mais ça lui fait du bien d'avoir une espèce de Noir représentant pour dire, regardez comment nous sommes ouverts à la situation. Donc, il y a cette pédagogie qu'il faut peut-être étudier à l'intérieur, et c'est bien dommage parce que lorsque vous lisez Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon, dans le début, il y a une question fondamentale qu'il souhaitait traiter. Il a dit, ça serait l'objet d'une autre étude. C'était par exemple les rapports entre les Africains et les Antillais, par exemple, qui n'est pas largement abordé dans Peau noire, masque blanc. Donc, il y a une question fondamentale. Il existe un problème là-dessus, mais qui n'est jamais traité. Ou le problème même de l'esclavage, par exemple, fait par les Arabes sur les Noirs, qu'on ne peut pas traiter parce que c'est des questions taboues. Et vous voyez, lorsqu'on traite, par exemple, d'une question de l'intérieur de l'Afrique dans l'esclavage et autres, l'exemple de Yambo Ologem dans Le Devoir de violence, ça détruit toute une œuvre d'un des plus grands écrivains africains de ce siècle.
Alors, on a parlé aussi, Abdourahmane Ouaberi a parlé de Achille Mbembe. Je voudrais juste vous lire un extrait justement du livre d'Alain Mabankou, Lettre à Jimmy, qui est vraiment intéressant puisque ça revisite alors l'œuvre et la figure de James Baldwin, qui est vraiment un grand écrivain noir américain et qui à l'époque avait déjà énormément pensé toutes ces questions de la nation américaine à la question noire et aussi de l'identité.
Il a pensé depuis Paris, c'est important.
Oui, aussi, important. Tout à fait. Et donc, il parle, Achille Mbembe, là, parle de l'hospitalité. Je pense que c'est assez intéressant, justement, au sens, là, presque de Derrida, d'accueillir l'étranger. Et alors, je vais vous lire un extrait donc, du livre d'Alain Mabankou. Non, peut-être pas quand même.
C'est le rêve américain. C'est le micro pour le prix d'un.
Alors, donc, c'est sur l'actualité de la pensée de James Baldwin aujourd'hui. Il y a encore du chemin à parcourir pour que nous saisissions enfin que l'autre n'est pas forcément synonyme de soustraction et encore moins de division, mais d'addition, voire de multiplication. Deux opérations dont nous ne pourrons plus faire l'économie dans un monde qui conteste plus que jamais la définition absolue des identités nationales. C'est dans ce sens que le philosophe Achille Mbembe reproche à la France son manque d'éthique de l'hospitalité, largement pratiquée par les États-Unis, et qui a permis à ceux-ci de capter et de recycler les élites mondiales. Au cours du dernier quart du XXe siècle, leurs universités et centres de recherche sont parvenus à attirer presque tous les meilleurs intellectuels noirs de la planète. Faut-il alors vanter les yeux fermés le modèle d'hospitalité américain en la matière, cher Jimmy ? Le philosophe camerounais argumente que nous le voulions ou non, les choses aujourd'hui et dans l'avenir sont telles que l'apparition du tiers dans le champ de notre vie commune et de notre culture ne s'effectuera plus jamais sur le mode de l'anonymat. Cette apparition nous condamne à apprendre à vivre exposés les uns aux autres. Nous disposons des moyens de retarder cette montée en visibilité, mais au fond, elle est inéluctable. Il nous faut donc, au plus vite, faire symbole de cette présence de telle manière qu'elle rende possible une circulation de sens. Merci. Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir
oui,
justement aux propos d'Achille Mbembe.
Oui, la question, ce qu'il appelle l'hospitalité, c'est aussi le fait qu'un pays puisse comprendre que le développement ou bien la grandeur d'un pays aussi se mesure par sa faculté de pouvoir capter les énergies qui peuvent peut-être propulser le pays de l'avant. La France a pourtant une expérience lointaine des Noirs. C'est-à-dire que quand elle avait besoin d'eux, Ben, elle allait les chercher là où il les fallait. Il y a eu la colonisation. Pendant la guerre, on les amenait. Ils venaient défendre le territoire français, l'Empire, à l'époque, sous les idéaux. Donc, c'est des gens qui venaient pour combattre pour une certaine idée de la France. Et par la suite, le fait que la France n'a pas réglé et sa question coloniale et sa question de la condition des Noirs en France, cela a fait que les Noirs ont commencé peut-être à se demander qu'est-ce qu'il faut faire peut-être pour être non pas utile dans son existence, mais utile même pour l'humanité. Donc de ce fait, les gens ont peut-être poursuivi cette espèce d'immigration, non pas seulement vers les États-Unis, mais également le Canada, qui a des mesures d'immigration plus ouvertes en quelque sorte. On voit, en ce qui concerne la France, que c'est souvent des mesures de façade qui sont prises sur la condition des Noirs. J'ai ricané en voyant que la nomination d'un préfet noir faisait une espèce de satisfaction ou d'événement, alors même que c'est une nomination. Ce n'est pas une espèce d'élection où les Français ont décidé de mettre quelqu'un qui représenterait. C'est une décision en quelque sorte gouvernementale. Toute décision gouvernementale est forcément une décision de stratégie politique, une décision de réponse à une situation quelconque qu'on a vue ailleurs et qu'on voudrait peut-être redresser. Donc, une nomination d'un préfet ne peut pas être, par exemple, considérée comme une avancée dans la condition des Noirs, d'autant plus que ce n'est pas le premier préfet noir, il y a des préfets noirs qui sont antillais, qui existent déjà. Donc ça veut dire que même dans la catégorisation des Noirs, il y a une espèce de séparation qui existe. Et ça rejoint l'argument que je tiens toujours du fait que le problème de la condition des Noirs en France, c'est qu'on ne peut pas parler d'une certaine unité de la condition des Noirs. Et que ceux qui veulent, par exemple, diviser les choses utiliseront toujours la multiplicité des parcours d'arrivée en France pour séparer, donc diviser, et de ce fait maintenir une espèce de statu quo dans la situation des conditions des Noirs en France. Si, par exemple, Waberi et moi, nous avions subi un fléau quelconque ou bien une espèce de catastrophe, donc nous nous reconnaissons dans cette cause, dès qu'on attaque cette cause, nous savons de quoi nous parlons. Mais le fait, par exemple, que Waberi peut-être ait son itinéraire singulier en étant en France et que j'ai le mien, le jour où j'ai un problème, mais qui ne concerne pas Waberi en tant que tel dans le cadre de son parcours, eh bien, à la rigueur, il aurait de la compassion, mais est-ce que pousserait-il peut-être l'altruisme jusqu'à faire ce que Georges Brassens appelle « mourir pour les idées » ou bien dire « non, 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 mais de mort lente, mourrez d'abord, moi je mourrai ensuite ». Donc il y a une espèce de hiatus. Donc l'hospitalité reprochée qui manque peut-être à la France, c'est de ça. C'est de ne pas croire que ces gens qui ont été à l'école républicaine, ces gens qui vivent sur le territoire français et qui parfois connaissent même l'histoire de la France sur le bout des lèvres, parce que l'avantage des Africains qui ont été colonisés dans ce sens, c'est qu'on nous a gavé encore de l'histoire de France. Donc tous les rois, on les récitait comme on a. Mais parallèlement, on n'a pas permis à la jeunesse française de mieux étudier l'histoire, en quelque sorte, de l'Afrique. Ce qui fait que lorsque nous discutons, eh bien forcément, on est à armes inégales. L'histoire de la France, on l'a étudiée. Nous allons vers l'histoire de l'Afrique, mais lorsque nous discutons, est-ce qu'on va s'arrêter simplement dans une histoire de France qui d'ailleurs est coupée, puisque au bout d'un moment, on fait des sélections. Oui, on peut enseigner, mais ça, on ne peut pas enseigner parce que nous savons pourquoi on ne doit pas l'enseigner. Donc, on saute en quelque sorte une période, on refuse d'intégrer une espèce d'histoire de France qui serait autre que celle de Vercingétorix et des autres personnages historiques. Il faut de ce fait revenir certainement à la base et comprendre que l'hospitalité aussi consiste à traiter les Noirs de France qui sont nés ici, qui ont grandi ici, parfois qui ne connaissent même pas la France. Parce que c'est ceux-là qui feront la France de demain, c'est-à-dire ceux qui sont nés ici, qui vivent ici, qui connaissent les règles de la République, qui sont en réalité des Français, parce que quand j'étais avec Pape Ndiaye, qui est métis croisé, donc sénégalais, France, c'était la première fois que Pape Ndiaye allait en Afrique. C'est le grand frère de Marie Ndiaye. Donc c'est la première fois, donc, il y a quelques semaines seulement. On est arrivé, moi je pensais, j'ai dit, bah, comment ça se passe au Sénégal? Il dit non, c'est la première fois que je viens en Afrique.
Au Sénégal, au Mali.
Au Mali, pardon. C'est la première fois. Non, je lui demandais des nouvelles du Sénégal, puisque son père est d'origine. Il dit non, c'est la première fois qu'il est au Sénégal. Il n'y a que ma sœur qui a été, je crois, deux fois au Sénégal. Moi, c'est la première fois que je foule la terre africaine. Donc, la piste sur la condition noire est là, dans le sens où ce sont les Noirs qui vivent ici, d'une génération qui s'est créée ici, qui sont en train peut-être de créer une histoire commune qui est la leur, le fait d'être nés sur ce territoire, de vivre ici, d'avoir des enfants, d'avoir des préoccupations qui deviennent en quelque sorte communes pour ces populations, qui doivent imposer cette idée de la France et dire que nous faisons partie des règles de ce pays et que ce pays ne peut pas avancer sans que nous puissions mettre la clé à la porte. Voilà.
Alors, simplement, sur ce que disait Achille, mais c'est ce que dit Alain, mais je résume. En gros, non seulement l'hospitalité est nécessaire, mais parce qu'elle est même plus que souhaitable, puisque c'est une stupidité. On forme des gens, Alain et moi, nous sommes des produits de l'université française, et on va aller travailler pour des Américains. Donc c'est même un gâchis, voyez-vous. Donc les Américains ont eu cette intelligence d'attirer tout le monde. Si la Silicon Valley, elle marche aussi avec les logiciels indiens, voyez-vous. Donc c'est non seulement même pas, c'est même obligatoire dans le monde où on est, on ne peut pas ne pas utiliser l'intelligence de tout le monde. Donc ça, c'est non seulement nécessaire, mais même un gâchis, de ce point de vue-là. Pour ce qui est de la France, si on parle du discours actuel, oui, si Pape Ndiaye explique très simplement qu'il n'y a pas une communauté noire, il y a des... Il appelle ça une condition noire, une minorité, c'est-à-dire il y a des Noirs d'origine diverse, des entiers pour un premier temps, des immigrés dans un deuxième temps, des gens qui viennent pour des études dans un troisième temps, et tout ça ne fait pas une seule communauté. Et ce qu'il note, par exemple, il y a plus de livres écrits sur les Noirs cubains ou sur les Noirs African-American, comme on dit, que sur le Noir français, puisque la République, par essence, étant indolore et incolore, j'allais dire, ne reconnaît pas les gens qui se trouvent être à la fois français et noir. Vous voyez, ça existe. Français et juif. Français et arabe, ça existe. Mais il n'y a pas, par exemple, des livres sur ces catégories-là, parce que ce n'est pas reconnu par notre République. Et là, donc, les gens qui se trouvent être français et noirs, quelle que soit leur origine, ne sont pas répertoriés et n'existaient pas. Il n'y a même pas des statistiques. On ne peut même pas travailler dessus. C'est ce que les gens du CRON démontrent. On ne peut même pas travailler sur certaines, pas toujours, mais sur certaines discriminations, parce qu'il n'y a pas de statistiques et personne ne s'en est préoccupé depuis longtemps. Donc là, il y a tout un travail à faire. Et Alain a raison. Il faudra que ces gens qui se trouvent être français et noirs se réunissent et trouvent des modus vivendi pour aller traiter avec la puissance politique. Laquelle puissance politique? C'est quand on parle des Français, c'est toujours abstrait. Laquelle puissance politique a raté lamentablement ces travails-là? Par exemple, le Parti Socialiste, pour nommer que lui, aurait pu, naturellement, j'allais presque dire, s'appuyer sur ce qu'on appelle les Français de la deuxième génération, à une époque où la droite était plus... un peu plus à l'extrême. Mais ils ont raté complètement. Je me souviens, ils me disaient, mais les Français ne vont pas accepter un candidat noir ou arabe en deuxième position, en troisième position, dans une ville comme Drancy, ou je ne sais pas, dans n'importe quelle commune, où la majorité des gens est de cette couleur-là, voyez-vous. Donc on a raté tous ces défis-là, et il faut reconstruire et retravailler, puisque maintenant, on est dans un monde de plus en plus... métissé et coloré, on ne peut pas faire l'économie de ces intelligences-là et de ces questions-là, c'est évident. Donc ce que fait le gouvernement actuel, par exemple, est totalement cosmétique, n'est-ce pas? Avoir mis trois, et d'ailleurs c'est trois femmes, alors je ne sais pas pourquoi, mais Ramayad, Amara et Rachida Dati, je ne sais pas pourquoi c'est trois femmes. Il y a quelque chose qu'il faut observer, questionner dans l'inconscient de nos dirigeants politiques.
Alors,
tu vas lire un passage de Wabiri.
Oui.
Donc, micro.
Oui, parce qu'on a parlé de l'histoire africaine qu'on ne connaît pas assez bien, par exemple en France. Et donc, dans ton dernier ouvrage, Abdourahmane, aux États-Unis d'Afrique. C'est la fiction d'un monde où, on va dire, l'Europe et l'Amérique sont vraiment les continents oubliés, dévastés, qui n'arrivent pas à survivre pendant que l'Afrique est opulente, offre tout. Et donc tout le monde se rue aux portes de l'Afrique parce que voilà, c'est le nouvel Eldorado. Donc j'ai choisi un passage qui justement rappelle ce qu'on oublie parfois de la grandeur africaine. Enfin, nous arrivâmes heureusement à Tombouctou, au moment où le soleil touchait à l'horizon. Je voyais donc cette capitale du Soudan qui, depuis si longtemps, était le but de tous mes désirs. En entrant dans cette cité mystérieuse, objet de convoitise des nations indigentes d'Europe, je fus saisi d'un sentiment inexprimable de satisfaction. Je n'avais jamais éprouvé une sensation pareille et ma joie était extrême. René Caillé, 1828. Ces mêmes mots, on les retrouve dans la bouche édentée des clandestins, natifs de Porto ou d'Odessa, de Chicago ou de Bristol, se languissant dans des zones de rétention, loin des façades, des voûtes, des perrons et des frontons de marbre de nos cités. Rien de nouveau sous le soleil sahélien ? L'histoire bégaye, empruntant les mêmes voies, dévalant les mêmes pentes savonneuses. Depuis que l'empereur Cancan Moussa, souverain de l'antique empire du Mali, l'un des plus prestigieux de notre fédération, a effectué en 1324 un pèlerinage à la Mecque en répandant de l'or le long du chemin, tout le malheur du monde a les yeux tournés vers notre félicité. En voilà un qui aurait gagné à se faire aussi discret et sobre que notre actuel président Nelson Mandela et son vice-président Areski Babel. L'un et l'autre tout juste remarquables pour leurs chemises chatoyantes dessinées par le couturier Paté Ndiaye lui-même. Et les chroniqueurs de ressasser cet épisode inscrit dans les manuels de l'enseignement primaire. L'empereur Cancan Moussa a pris la tête d'une procession de 60 000 serviteurs et esclaves pour accomplir son pèlerinage. Il était en possession de telles quantités d'or, d'un poids estimé de 2 à 8 tonnes, que sa visite au Caire fit chuter le prix mondial de l'or de 15 à 20%. Qu'ajoute-t-elle la chronique ? Légende, destinée à nos chères petites têtes crépues. Les habitants du Caire furent tellement émerveillés par toutes ces montagnes d'or et ces rivières de perles qu'ils rompirent tout lien avec Constantinople pour se mettre sous la protection du fils du dieu roi, Sundiata Keïta, qui, lui aussi, est resté dans les almanachs et les mémoires pour ses largesses sans bornes. De l'Orient, la réputation de l'empereur Cancan Moussa s'est propagée à la vitesse de l'éclair pour atteindre les coins les plus reculés de la planète. Ibn Battuta, le Tangérois, a entendu cette légende gonfler chez les païens des îles de la Baltique qui pratiquaient le cannibalisme, comme chez les aborigènes de la Tasmanie, tout s'éteint aujourd'hui, et jusqu'aux orpailleurs querelleurs de la Patagonie. Donc, on voit dans ce livre, qui est donc une fiction à la fois très drôle, évidemment, à lire, mais aussi on remet aussi des références oublié, non connu, d'une histoire qui est encore assez occultée. C'est vrai qu'on a parlé des États-Unis avec, on va dire, ses bons côtés, savoir capter les énergies, offrir, selon les compétences de chacun, la possibilité de faire ce qu'il sait faire. Il y a malgré tout aussi dans notre monde, où on va dire, je pense que entre 80 et 90% par exemple de ce qui se publie dans le monde est publié au Nord. Aussi un devoir de réhabiliter d'autres histoires qui sont méconnues. Donc si les États-Unis d'Afrique se mettaient à exister, Abdourahmane, qu'est-ce qu'on garde des États-Unis et qu'est-ce qu'on laisse ?
Alors, quand je suis allé voir les étudiants, les élèves, les gosses, comme je les appelle, comme on est allé plusieurs fois ces derniers temps avec Alain, notamment au Mali, mais ailleurs à N'Djamena et à Djibouti, les étudiants, en tout cas les Africains, les jeunes Africains sont très, très subjugués par le sujet. Ils me demandent, alors quand est-ce qu'on va réussir ces États-Unis d'Afrique ? Donc certains me demandant, même si je ne travaillais pas pour le NEPAD d'Abdoulaye Wade ou pour Gaddafi, Muammar Gaddafi le Libyen et d'autres, me demandant si je n'étais pas avec l'OUA de l'époque de Conari. En fait, le projet, c'était simplement, j'ai essayé de... C'est un projet... on va dire, à la fois farcesque et politique et morale, en même temps et rigolo, c'est j'ai essayé de dire, tiens, si la Terre tournait, faisait un demi-tour sur son axe, qu'est-ce qui se passerait? Si le nord devenait le sud et le sud le nord, si les riches devenaient les pauvres et les pauvres les riches, qu'est-ce qui se passerait? Donc c'est à la fois un miroir tendu au monde actuel, n'est-ce pas? Parce que l'immigrant est toujours noir et sahélien. Tiens, j'ai dit, s'il venait de Zurich et s'il était blanc, qu'est-ce qui se passerait? Et s'il s'est passé dans une ville africaine, à Bobo? Un Suisse arrive à Bobo et demande tant la Sibylle, n'est-ce pas, et m'ont dit à Bobo, qu'est-ce qui se passerait? Donc à partir de là, j'ai fait une fiction qui était à la fois sérieuse et pas sérieuse. Et je me suis dit, bah, finalement, on ne peut pas non plus parler dans l'abstrait, puisque dans ce monde-là, une fois qu'on a rentré dans le roman, dans ce monde-là, Hollywood n'existe pas, Mozart n'existe pas, je ne sais pas, la voiture Volkswagen n'existe pas, il fallait inventer des référents dit africain, n'est-ce pas? Et donc, oui, africain. Donc, par moment, je m'appuie très sérieusement sur des faits historiques, comme l'Empire mondain, comme Cancan Moussa, les voyages de Cancan Moussa à la Mecque est un épisode connu de l'histoire. J'ai pastiché ou déformé des bouts de récits, comme celui de René Caillé, évidemment, que j'ai retourné. Puis d'autres fois, c'est le plaisir de la fiction où on invente par association et par écho et par jeu de mots. Des référents, par exemple, Coca-Cola devient, je ne sais plus, Africola, Nescafé devient Neguscafé, donc des jeux comme ça. Donc c'est un projet à la fois sérieux et pas sérieux, et qui interroge, donc qui remet en place d'abord les référents africains et panafricains. Par exemple, les rues, les écoles, les bibliothèques sont baptisées avec des noms d'artistes et d'auteurs, dont vous parliez tout à l'heure de la Harlem Renaissance, mais des gens qu'on connaît. C'est pas la rue Mongo Betty ou Assia Djebar ou je ne sais pas qui. Alain Mabankou doit attendre plus tard, mais il va avoir une bibliothèque. Mais en même temps, c'est un projet sérieux et pas sérieux. Donc c'est un conte philosophique, j'allais dire un peu.
Et puis, bon, on ne voudrait pas laisser l'image que tout est toujours doré.
Non, bien sûr. Non.
Aux États-Unis, où il y a des choses. Par exemple, le fait que les étudiants n'aient pas forcément tous accès à ces grandes universités, ça pose un problème.
Qui coûte très cher, je suis, l'équivalent d'un demi-salaire. Voilà,
je suis dans une université où, quand j'ai fait un cours où il y a 30 étudiants, je me retrouve parfois au milieu de 30 personnes qui viennent d'origine asiatique, indienne et blanche. De couleur blanche, tandis que je ne trouve pas les noirs jusqu'au bout de l'université quelque part. Donc quand on creuse un peu, il y a un système qui se trouve inégalitaire vis-à-vis de l'accès à l'enseignement, que peut-être en France c'est plus avantageux dans le sens où l'école supérieure est quand même publique. Bon, je sais qu'à l'époque, quand j'étais à Dauphine, il y avait eu un procès où Dauphine faisait faire des concours ou excluait des gens. C'était aller jusqu'à la Cour constitutionnelle, je ne sais pas, pour demander à l'Université de Paris Dauphine de ne pas faire cette espèce d'inégalité. Donc le système éducatif américain, certes, il est performant dans le sens où il y a les moyens, il y a la technologie, il y a une espèce d'autonomie des universités, mais l'accès à ces universités reste toujours très délicat pour les minorités qui sont en place, alors même que dans la société, on essaie autant que faire se peut de pouvoir donner l'image d'une société qui est ouverte à tout le monde. Donc toutes les discriminations sur les logements, par exemple, sont en quelque sorte décriées. Ça veut dire que si vous êtes noir et que vous cherchez un logement et qu'on vous refuse parce que vous êtes noir, soyez content parce qu'au bout du procès, vous allez avoir non seulement un logement, mais vous aurez 1 million et quelques de dédommagements. Ça vous permettra non plus d'être locataire, mais propriétaire. Donc, généralement, certains noirs cherchent des inégalités pour vite courir devant le juge fédéral et dire « Regardez, là-bas, on m'a défendu un studio. Et donc, il faut qu'on vérifie, mais est-ce que ce n'était pas à cause de ceci ou de cela, d'un passé ?» Dans ce sens, il y a des choses en Amérique qui ne seraient pas en tant que telles exportables également ici. Le fait même qu'on puisse peut-être analyser de très près la question, par exemple, de ce qu'ils appellent la discrimination positive. C'était intéressant de voir que dans dans un état, je crois, comme le Colorado, où ils avaient voté massivement pour l'élection d'Obama. Et vous savez, pendant l'élection présidentielle américaine, il y a l'élection générale, quand vous allez dans les urnes, et en bas, il y a d'autres questions qu'on va vous poser. Par exemple, on va profiter de l'élection présidentielle pour aussi demander à la population s'ils veulent le mariage des couples homosexuels, s'ils veulent l'autorisation des armes, s'ils veulent la pendaison haut et court, ainsi de suite. Donc, on pose multiples questions. Et dans cet état, il y avait l'élection présidentielle plus la question pour installer ou bien faire pérenniser la discrimination positive. Les gens ont voté oui pour que président Obama soit le président, mais ils ne veulent pas de la discrimination positive dans leur État. Donc c'était incompréhensible pour les grands politiciens qui se disaient « mais ils ont voté quand même un noir, ils auraient pu être sensibles pour voter aussi que les minorités passent ». Simplement, ils avaient dit « oui, on vote cet individu par rapport à la séduction qu'il nous a faite, entre guillemets, le plan, le charisme, ainsi de suite, et nous ne souhaitons pas avoir cela. Mais il y a certains États où la discrimination positive doit être maintenue parce que ce sont des États qui sont fondamentalement anti-minorité, fondamentalement fermés à cela. Et c'est peut-être aussi l'intérêt d'avoir un pays dans lequel les États ont parfois des lois autonomes qui sont différentes, d'ailleurs, d'un État à l'autre, et certains criminels utilisent cet alibi parce que vous pouvez être un criminel, vous faites votre crime dans un État où il y a la peine de mort, alors que l'État d'à côté, les criminels n'ont pas la peine de mort, et bien, qu'est-ce que fait le criminel? Bien, il va devenir serial killer dans un État où il n'y a pas la peine de mort. Il choisit tout simplement. Voilà.
Tu exagères un peu, mais c'est vrai que O.J. Simpson vit en Floride parce que Floride lui laisse un peu de marge de son argent d'avant. Voilà. Alors que dans l'état où il était avant, peut-être en Californie, on lui aurait tout pris. Voilà. Mais il s'est replié en Floride, parce qu'il peut survivre au moins.
C'est les criminels en col blanc. Hein. Donc, c'est-à-dire, ils savent, ils prennent la carte des États-Unis, ils étudient, ils mettent des rouges. Là, je ne dois pas tuer. Ici, il le faut. Et ainsi de suite. Voilà.
Et concernant justement Obama, parce que c'est vrai que quand j'ai vu le thème du débat et quand on a eu le résultat des élections, on s'est dit, ben voilà, on ne peut pas ne pas parler en effet de ce rêve américain à ce moment-là. En effet, la France est passée assez rapidement d'une veine anti-américaniste qui est toujours là à l'état d'adulation, on va dire, pour le nouveau président. Et moi, je voulais savoir à qui vous avez pensé quand vous avez vu le résultat de l'élection. Est-ce que vous êtes remonté à Rosa Parks, à Martin Luther King? Est-ce qu'il y a à James Baldwin? Est-ce qu'il y a quelqu'un auquel, ou alors justement l'ensemble de la lutte, à qui vous avez pensé à ce moment-là?
Moi, j'ai pensé à l'histoire générale des Afro-Américains. Quand on regarde leur histoire, on a l'impression que c'est quelque chose qui se préparait depuis, mais les acteurs, en tant que tels, les acteurs noirs, n'étaient pas sûrs que ça viendrait à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est pour cela que, dès le départ, Obama n'a pas été soutenu par les Noirs, puisqu'ils avaient dit, écoutez, pourquoi on va gaspiller les voix, sachant que nous ne pouvons pas, le révérend Sharpton avait essayé, il avait raté, Jesse Jackson avait eu aussi la Iowa, mais après il avait raté. Donc pour eux, ce n'était même pas question, c'était une petite promenade d'un premier tour, et puis ça s'essoufflerait. Et puis se poser l'autre question de l'origine d'Obama pour les Africains-Américains. Il ne reconnaissait pas en lui la même identité, celle que j'évoquais tout à l'heure. Le fait qu'eux, ils se disent descendants vraiment des esclaves, c'est-à-dire ils sont arrivés dans ce sens, tandis qu'Obama, il est issu d'un père qui est venu faire les études aux États-Unis, qui a croisé une femme blanche qui était aux États-Unis. Ils ont fait un enfant, donc c'est en quelque sorte un Africain immigré qui a eu un enfant. Donc il y avait une espèce d'ostracisme au départ, qui se disait non, ce n'est pas un vrai Afro-Américain. Donc, nous, il nous faudrait peut-être une espèce de candidat qui, lui, descend vraiment de l'esclavage au fur et à mesure. Mais je pense que le développement a fait qu'on a gommé facilement cette question avec la victoire éclatante, par exemple, dans l'Iowa, où on a vu qu'il n'y a pratiquement pas de Noirs dans l'État, mais on a voté massivement pour Obama et que Clinton, qui était censé être gagné la partie, se retrouvait même pas en deuxième position, mais en troisième position derrière John Edwards. À ce moment, les gens se sont dit, écoutez, bon, tant qu'à faire, de toutes les façons, bon, on est là, on est là. Ils sont partis dans ce sens. Je n'ai pas forcément pensé à un personnage donné. Curieusement, je pensais même plutôt à un blanc, à John Kennedy. C'est bizarre, je pensais, puisqu'il avait tout. C'est quelqu'un qui a lu l'histoire des États-Unis, dont les références sont Lincoln, Kennedy, ainsi de suite, qui avait cette espèce de gouaille de Kennedy, qui avait la même jeunesse, qui avait la même façon de répandre le rêve. Mais un Kennedy avec les accents du discours de Martin Luther King à cette époque, qui avait fait son rêve dans ce sens. C'était une espèce de mélange. Et c'est peut-être que ce mélange a fait qu'il symbolise finalement le visage de l'Amérique. Il n'est pas simplement noir, puisque c'est noir et blanc. Donc c'est en quelque sorte une espèce de mélange et l'histoire américaine s'est retrouvée à l'intérieur. Mais par contre, si on lit un livre comme « La prochaine fois, le feu » de James Baldwin, en le lisant, on a même l'impression que peut-être James Baldwin a été celui qui avait prévu qu'Obama serait là en 2008-2009. Mais bon, précisément, j'ai vu l'histoire des États-Unis. Et puis, pour le reste, à force de trop vouloir regarder l'histoire, on risque d'oublier de construire l'avenir et de vivre le présent.
Non, c'est un phénomène très intéressant. Bon, en fait, on ne peut pas penser à une personne. Il a, bien sûr, sur le langage et la rhétorique, il a calqué complètement le révérend King. On sent même, on l'entend. Mais évidemment, ma thèse, c'est qu'il a dépassé au fait tous. C'est-à-dire que c'est pas pour déshonorer. Bien évidemment, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Rosa Parks et King et les autres. Mais il a outrepassé tous, puisqu'il a fait une synthèse tout en étant immigrant par son père, d'ailleurs par son père musulman, son beau-père était musulman aussi, enfin son père adoptif, si j'ose dire, était musulman, étant né, grandi à Hawaï, après en Indonésie. En fait, il était à la fois un outsider de ce point de vue-là, racialement, hein, puisque c'était un métis, hein, une catégorie qui n'existe pas aux États-Unis. Hein. C'est très différent de nos latitudes. Il n'y a pas de métis, il y a de noirs ou de blancs. Il n'y a pas d'entre-deux. Il était métis, mais il s'est aussi branché très consciemment et intellectuellement sur la communauté noire qui n'en voulait pas, bien sûr, pour des raisons qu'on peut comprendre ou pas comprendre. Mais Jesse Jackson était contre lui. Une partie de la bourgeoisie démocrate noire qui était légitimiste et clintonienne était contre lui. Mais il a outrepassé. Par ailleurs, il s'est branché sur la communauté noire par sa femme et par son travail sur le terrain à Chicago. Donc c'est à la fois quelqu'un qui avait une légitimité, on va dire, de terrain, mais ne venait pas de la bourgeoisie noire classique, démocrate. Donc il les a outrepassés. Et alors, ce qui était émouvant, c'est de voir Jesse Jackson qui pleurait le soir à Chicago, mais quelques semaines avant, il avait dit des choses assez, on va dire, musclées, n'est-ce pas, sur lui. Donc, je pense qu'il a utilisé cette histoire, mais il a outrepassé. Il a fait mieux que, évidemment, King, mais aussi mieux que Kennedy. Il a fait, en fait, mieux. C'est le meilleur remède ou la meilleure chose qui pouvait arriver aux Américains d'abord et au monde ensuite.
Et est-ce que, justement, puisque c'est vrai qu'il se présente...
Et d'ailleurs, ce qu'il fait, son gouvernement, qu'il est en train de composer, montre quelqu'un qui est très réfléchi, qui est très intelligent, et qui est, je ne vais pas chercher des miracles ou des sauveurs, mais qui est tout à fait accepté, et écouté, attendu par les Américains. En tout cas, les choix qu'il fait actuellement sont très forts.
Oui, et du coup, cette façon de se présenter, non pas en effet comme le candidat d'une minorité noire, même si, évidemment, il l'a rallié plus ou moins... mais comme un candidat post-racial, comme on le nomme, et finalement...
post-racial, post-racial, c'est ça, s'il niait, il n'en est pas dans un... Si post-racial, j'accepte pas, s'il disait que la race n'existait plus, il ne dit pas ça. Il est très conscient de ça, il rend hommage au grand chef, au grand leader de la communauté noire. Et je vous dis, il a même calqué son phrasé sur King. Donc il n'est pas post-racial, il est plus intelligent, il est pragmatique, il négocie. Un noir ne pouvait plus gagner que sur le seul renfort de sa communauté. C'est ce qui a fait l'expérience que Jesse Jackson avait faite. Il va gagner 3 États et peut-être 14% de la population. Donc on n'est pas là, on est dans une négociation permanente. Mais il n'est pas post-racial au sens où la race serait évacuée, on serait tous maintenant un peu colorés. Non, il est très conscient et ce qu'il fait est tout à fait dans l'intelligence fine de le monde de demain sera obamanien dans cette manière de gérer les choses.
Alors avant de, je pense, passer la parole au public, parce que autant en profiter, moi je voudrais quand même, parce que en préparant la rencontre, moi j'ai quand même beaucoup pensé à James Baldwin. Donc vous lire justement un extrait de La prochaine fois le feu, My Dungeon Shook, qui est en fait un texte qu'il a écrit en 1963 à l'occasion du 100e anniversaire de l'émancipation américaine. Et je ne vais pas vous le lire en entier, mais bon, comme Elon Abila n'est pas là, on va prendre sur son temps de parole. Et puis ensuite, Alain Maboncou vous lira un extrait de Vers cassés, parce que s'il y en a qui ne connaissent pas parmi vous, je pense que ça vaut la peine de l'entendre.
Il passe au théâtre d'Appert encore le week-end prochain, n'est-ce pas ?
Jusqu'au 15 décembre, voilà, il y a une mise en scène qui a été faite. Bon, je rappellerai tout ça à la fin. Donc, une petite lecture de James Baldwin. Mon cher James, voilà 5 fois que je commence cette lettre et 5 fois que je la déchire. Constamment, je vois ton visage, qui est aussi le visage de ton père, mon frère. Comme lui, tu es coriace, sombre, vulnérable, ombrageux, avec ce qui pourrait très bien passer pour un côté querelleur, parce que pour rien au monde, tu ne voudrais pouvoir être pris pour un lâche. Peut-être en ceci ressembles-tu à ton grand-père. Je n'en sais rien, mais une chose est certaine, c'est que ton père et toi-même lui ressemblaient beaucoup physiquement. Quoi qu'il en soit, il est mort, ne vous a jamais connu, et sa vie a été misérable. Il avait perdu la partie, longtemps avant de mourir, parce que, au fond de son cœur, il croyait vraiment ce que les Blancs disaient de lui. C'est en partie à cause de cela qu'il devint un tel saint. Ton père t'a certainement parlé de tout cela. Ni toi ni ton père ne manifestaient de fortes tendances à la sainteté. Vous appartenez véritablement à une autre époque, est un produit de cette migration des Noirs vers ce que feu Franklin Frazier appelait les cités de destruction. Tu ne seras détruit que le jour où tu croiras vraiment être ce que les Blancs appellent un « nigger ». Cela, je te le dis parce que je t'aime, et s'il te plaît, ne l'oublie jamais. Je vous ai connus tous les deux depuis votre naissance. J'ai porté ton père dans mes bras et sur mes épaules, l'ai embrassé, lui ai donné des fessées, l'ai vu faire ses premiers pas. Je ne sais pas si tu as jamais connu quelqu'un de cette façon. À aimer quelqu'un pendant aussi longtemps, d'abord le nourrisson en lui, puis l'enfant en lui, puis l'homme en lui, on acquiert une notion particulière du temps, de la peine et de la misère des hommes. Les autres ne peuvent pas voir ce que je vois quand j'observe le visage de ton père, car derrière le visage qu'il a maintenant sont tous ces autres visages qui furent les siens. Qu'il rit, et je vois une cave dont ton père ne se souvient pas, et une maison dont il ne se souvient pas. Et j'entends dans son rire aujourd'hui son rire d'enfant. Qu'il pousse un juron, et je me rappelle le jour où il est tombé dans l'escalier de la cave, et les hurlements qu'il poussait. Et je me rappelle, douloureusement, ces larmes que ma main ou celle de ta grand-mère séchait si facilement. Mais aucune main ne peut sécher les larmes invisibles qu'il verse aujourd'hui et qu'on entend quand il rit, quand il parle, quand il chante. Je sais ce que le monde a fait à mon frère et combien peu s'en est fallu qu'il en meure. Et je sais ce qui est pire encore, et c'est là le crime dont j'accuse mon pays et mes concitoyens, et pour lequel ni moi-même, ni le temps, ni l'histoire ne leur pardonneront jamais. Je sais qu'ils ont détruit et détruisent des centaines de milliers de vies, et qu'ils l'ignorent et veulent l'ignorer. Il est possible, Il est même souhaitable d'acquérir une attitude froide et résignée vis-à-vis de la destruction et de la mort. Car c'est en ce domaine que la plupart des hommes ont fait preuve des plus grands talents tout au long de ce que nous connaissons de l'histoire. Mais, et ne l'oublie pas, la plupart des hommes ne signifie pas tous les hommes. Mais ce qui n'est pas admissible, c'est que les responsables de tels ravages soient aussi innocents. C'est leur innocence qui constitue leur crime. Cette nation innocente t'a relégué dans un ghetto au fond duquel elle comptait, en fait, te voir périr. Il me faut ici énoncer précisément ce que j'entends par là, car nous arrivons au fond du problème, aux racines de ma querelle avec mon pays. Tu es né là où tu es né et as été confronté avec l'ennemi avec lequel tu as été confronté parce que tu étais noir et pour cette seule raison. Ainsi avait-on fixé, et à jamais pensait-on, des bornes à ton ambition. Tu étais né dans une société qui affirmait avec une précision brutale et de toutes les façons possibles que tu étais une quantité humaine absolument négligeable. On n'attendait pas de toi que tu aspires à l'excellence, on attendait de toi que tu pactises avec la médiocrité. Partout où tu t'es tourné, adressé, James, pendant le peu de temps que tu as déjà passé sur cette terre, tu t'es fait dire où tu pouvais aller, ce que tu pouvais faire et comment tu pouvais le faire, et où tu pouvais habiter et qui tu pouvais épouser. Je sais que tes compatriotes ne sont pas d'accord avec moi à ce sujet et je les entends déjà dire « Vous exagérez, ils ne connaissent pas Harlem, moi je le connais et toi aussi ». Je ne prends la parole de personne pour argent comptant, la mienne non plus. Mais fie-toi à ton expérience. Sache d'où tu viens. Si tu sais d'où tu viens, il n'y a pas de limite à là où tu peux aller. Les détails et symboles de ta vie ont été construits selon un plan délibéré, destiné à t'amener à croire ce que les Blancs disent de toi. Tâche, s'il te plaît, de te souvenir que ce qu'ils croient, de même que ce qu'ils font est obligé à supporter, ne porte pas témoignage de ton infériorité, mais de leur cruauté et de leur peur. Tâche de discerner, mon cher James, à travers cette tempête qui fait aujourd'hui rage autour de ta jeune tête, la réalité qui se dissimule derrière ces mots, acceptation et intégration. Tu n'as aucune raison de t'efforcer de ressembler aux Blancs, comme est absolument sans fondement leur impertinente conviction qu'il est de leur devoir de t'accepter. Ce qu'il y a de vraiment terrible, mon vieux frère, c'est qu'il est de ton devoir à toi de les accepter. Et je parle très sérieusement que je dis cela. Il est de ton devoir de les accepter et de les accepter avec amour. Car c'est là le dernier espoir de ces innocents. Ils restent, en fait, pris au piège dans une histoire qu'ils ne comprennent pas. Et jusqu'à ce qu'ils l'aient comprise, ils ne pourront se dégager. Il leur a fallu croire pendant de longues années, et pour d'innombrables raisons, que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs. Beaucoup d'entre eux, à la vérité, savent qu'il n'en est rien. Mais, comme tu auras l'occasion de t'en rendre compte, les hommes trouvent souvent bien difficile d'agir selon leurs convictions. Agir, c'est s'engager, et s'engager, c'est prendre des risques. Dans le cas particulier, le risque, aux yeux de la plupart des Américains blancs, c'est la perte de leur identité. Essaie d'imaginer tes réactions si tu t'éveillais un matin pour trouver le soleil brillant de tout son éclat au milieu d'un scintillement d'étoiles. Tu aurais peur parce que ceci serait contraire à l'ordre de la nature. Tout bouleversement dans l'univers nous effraie parce qu'il attaque si profondément notre sens de notre réalité propre. Eh bien, dans le monde des Blancs, le noir a rempli la fonction d'une étoile fixe, d'un pilier immobile. Il abandonne sa place et le ciel et la terre en tremblent jusque dans leurs fondations. Toi, n'aie pas peur. J'ai dit qu'on voulait te laisser périr dans ton ghetto. De ne jamais avoir la possibilité de percer à jour les classifications des Blancs, de ne jamais avoir l'occasion de montrer qui tu étais vraiment. Tu as, comme beaucoup d'entre nous, déjoué ses intentions. Et par une loi terrible, un terrible paradoxe, ces innocents qui croyaient assurer leur sécurité en t'emprisonnant voient leur réel leur échapper. Mais ces hommes sont tes frères, tes cadets égarés. Et si le mot intégration a le moindre sens, c'est celui-ci. Nous, à force d'amour, obligerons nos frères à se voir tels qu'ils sont, à cesser de fuir la réalité et à commencer à la changer. Car tu es ici chez toi, mon ami, ne t'en laisse pas chasser. De grands hommes ont accompli ici de grandes choses et en accompliront encore. Et nous pourrons faire de l'Amérique ce que l'Amérique doit devenir. Ce sera dur, James, mais tu es issu d'une race de paysans solides, d'hommes qui cueillaient le coton, barraient les fleuves, construisaient ces chemins de fer et... alors que tout semblait les en défier, se sont acquis une dignité inattaquable, monumentale. Tu proviens d'une longue lignée de grands poètes, dont certains sont parmi les plus grands depuis Homère. L'un d'entre eux a écrit « Au moment même où je me crus perdu, mon cachot trembla, mes chaînes tombèrent. » Tu sais, et je sais que cette nation célèbre 100 années de liberté, 100 années trop tôt. Nous ne serons libres que le jour où les autres le seront. Dieu te bénisse, James, et te protège, ton oncle James.
Texte d'actualité, hein. Si on remplace le neveu de James Baldwin par Barack Obama, on a l'impression qu'il lui dessinait déjà cette espèce d'Amérique. C'est ce texte qui ouvre d'ailleurs le livre « La prochaine fois, le feu » de James Baldwin, qui est, à mon avis, le livre le plus abouti sur les droits civiques. Hein. Les gens parlent souvent de la violence de Malcolm X, mais la violence qu'il y a dans « La prochaine fois, le feu » est très, très, très étonnante. Voilà.
Merci. Alors...
Justement, il faudrait lire de plus en plus, parce qu'il a un peu oublié James Baldwin, et il faudrait les relire. Et c'est quelqu'un qui a utilisé ses passages en France. Il est mort dans le sud de la France. Un passage au Maroc, en Turquie. Il a toujours décentré, il a dit des choses essentielles sur à une époque où les African Americans ne sortaient pas tant que ça. Il s'est identifié aux Africains. Il a dit des choses sur la France. C'est quelqu'un qu'on devrait lire plus souvent.
Je suis tout à fait d'accord. Alors, avant de passer la parole à Alain Mabankou, je vous rappelle tous les titres des ouvrages. Abdourahman, tu voudras lire comme tu veux, t'en choisis un. Donc, aux États-Unis d'Afrique, donc qui nous entraîne dans ce monde différent, où en effet l'Afrique nous fait pénétrer dans ses richesses. Si on veut relire James Baldwin, alors relisons-le, et aussi Alain Mabankou, Lettre à Jimmy. Elon Abila, En attendant un ange. Et concernant en fait deux ouvrages sur la question américaine, Pape Ndiaye, La condition noire, dont on a beaucoup parlé, qui a un excellent essai vraiment d'une clarté remarquable sur justement la question noire en France. Et alors, un peu en marge, l'autobiographie d'Edwige d'Anticat, Adieu mon frère, qui est un livre absolument bouleversant, et je vous le conseille. Voilà. Et maintenant, les auteurs vont nous lire un passage. Alors, Vers cassé, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut vraiment écouter et ensuite lire.
Je vais lire un passage où le personnage Vers cassé parle de cette époque où on l'a congédié de l'enseignement, puisqu'il est un instituteur à 64 ans. Il a 64 ans et que c'est un ivrogne désormais. Et là, il est en train de raconter les conditions dans lesquelles il avait été un jour viré de l'enseignement par les responsables officiels. Quand j'étais encore instituteur, il paraît même que j'arrivais toujours en retard en classe chaque fois que j'avais bu. Il paraît même que je montrais alors mes fesses aux enfants pendant le cours d'anatomie. Il paraît même que je dessinais des sexes géants au tableau. Il paraît même que je pissais dans un coin de la classe. Il paraît même que je pinçais les fesses de mes collègues, hommes ou femmes. Il paraît même que j'avais fait goûter du vin de palme aux élèves. Et comme il n'y a pas de petites querelles dans ce monde qui s'effondre, l'inspecteur régional a été mis au courant de mes mœurs de primitif. Le préfet des régions a aussi été mis au courant de ma chronique de la dérive douce. Et ce préfet de l'époque n'était pas homme à laisser pourrir une affaire. Il crevait toujours l'abcès dès les premiers symptômes. Et donc ce préfet de malheur a été très catégorique, très intraitable, très intransigeant. Et il a demandé ma mutation pure et simple. Il a dit de sa voix grave, de prophète, lisant le commandement de Dieu gravé sur une pierre, « Envoyez-moi cet ivrogne dans la brousse, je ne veux plus de lui dans ma circonscription. Il gêne ma campagne contre l'alcoolisme, je ne veux pas perdre les prochaines nominations. » Et donc, il voulait à tout prix me muter en brousse, et j'ai dit non de manière ferme et irrévocable. Je ne me voyais pas dans la brousse, à scruter les derrière des pintades. Et c'est à ce moment que le commissaire du district a été mis au courant à son tour. On ne joue pas avec ce gars qui mesure plus de 2 mètres. On exécute ce qu'il dit, un point c'est tout. Et il a confirmé l'idée du préfet de me parquer dans la brousse profonde au milieu des pintades. J'ai dit non, non et non. Et c'est à ce moment que le commissaire du gouvernement a été mis au courant à son tour. C'était pourtant un type sympa, on aurait dit un PD parce qu'il remuait son derrière comme une femme quand il marchait. Le commissaire du gouvernement, qui était pourtant sympa, a dit que la brousse était la seule solution pour des gens de mon acabit. Comme ça, je ne boirais que du vin de palme qui, d'après lui, semblait moins nocif que le vin rouge. J'ai dit non, non et non. Et c'est à ce moment que le ministre de l'Éducation a été enfin mis au courant à son tour. Et il a dit, c'est quoi cette pagaille qui se passe au quartier 300 ? L'ivresse n'excuse pas l'imbécilité et vice-versa. Mutez donc cet ivrogne dans la brousse et qu'on n'en parle plus. Et il y a eu l'effet boule de neige. La petite querelle est devenue une affaire de tout le monde. La brousse ou pas la brousse, telle était la question. Du coup, les parents d'élèves ont commencé à retirer leurs enfants de ma salle de classe. Et puis, on ne m'a plus fourni des crêpes parce qu'il paraît même que je les mangeais ou les écrasais en marchant dessus. Et puis, on ne m'a plus fourni des stylos parce que paraît-il que je les confondais avec un thermomètre durant la classe et les enfonçais là où on peut l'imaginer. Et puis, on ne m'a plus fourni des stylos ou de feutres de différentes couleurs parce que je ne distinguais plus bien les couleurs et que je ne reconnaissais que le rouge et le noir. Et puis, on ne m'a plus fourni le matériel de géométrie parce que, paraît-il, je ne pouvais plus tracer une ligne droite, qui est quand même le plus court chemin qui mène d'un point à un autre. Et puis, on ne m'a pas plus fourni de carte de notre pays parce que, paraît-il, je l'appelais encore du nom qui était le sien à l'époque de la royauté. Et j'ai dit haut et fort, je m'en fous. J'ai pas besoin de tout ça pour enseigner. Je ferai avec les moyens du bord. Je m'en fous des stylos, je m'en fous des craies, je m'en fous des règles et je m'en fous aussi de la carte de notre pays parce que ce pays, c'est de la merde, c'est des frontières qu'on a héritées quand les Blancs s'est partagé leur gâteau colonial à Berlin. Donc, ce pays n'existe même pas. C'est une réserve avec du bétail qui meurt de disette. Et voilà qu'un jour, très éméché, je suis arrivé en classe. J'ai constaté qu'il n'y avait qu'un seul élève assis au fond de la salle. Heureusement que c'était l'un de mes meilleurs élèves et je lui ai dit d'avancer, d'occuper le premier table banc, d'être fier de la soif de connaissance qui auréolait sa tête d'ange. Donc j'ai quand même fait mon cours avec ce petit ange qui me regardait avec pitié parce que c'était un vrai ange avec ses yeux innocents, son regard intolérant. Et il est resté dans la classe même si ses camarades ne s'étaient pas pointés. Il s'est mis au premier rang, il a posé ses affaires sur la table, son cahier de leçons, son petit dictionnaire de poche, son taille-crayon, son crayon, sa gomme, son bic et sa bouteille d'eau. Et je lui ai alors parlé du pluriel des noms. C'est vrai que j'étais bourré, mais je me souviens vaille que vaille ce que j'avais dit. Mon petit, merci d'être venu. C'est peut-être la dernière fois que j'enseigne dans cette école. C'est Dieu qui t'envoie. Et tu seras un homme important, un vrai, je le pressens. C'est pour cette raison que je vais te donner les bases de l'expression écrite et je vais te parler du pluriel des noms. C'est important dans la vie, mon petit. Tout le reste viendra après parce que la vie est une banale histoire de singulier et de pluriel qui se battent tous les jours, qui s'aiment, qui se détestent, mais qui sont condamnés à vivre ensemble. Prends donc ton cahier de leçons et copie bien ce que je te dis. Retiens qu'en général, les pluriels de noms communs se forment en ajoutant un S à la fin. Mais attention, le pluriel et le singulier sont semblables dans les noms terminés par S, X, Z comme dans bois, noix ou nez. Et tout à l'heure, on va voir le pluriel des noms composés comme coffre-fort, basse-cour ou tire-bouchon. On verra aussi le pluriel des noms communs étrangers comme pizza ou match. Merci.
Un extrait de Debut. Donc, comme on avait dit, le roman se passe dans un monde inversé où le nord et le sud, et le sud, le nord, donc les migrants viennent du nord, d'Europe et d'Amérique. Donc là, on va avoir le personnage principal qui est un Helvète, un Suisse, qui arrive en Afrique. Et je vous lirai un tout petit peu un passage sur le personnage principal qui est une artiste un peu plus tard. Ça commence ainsi, et le livre est composé des 4 voyages. Voyage à Asmara, capitale fédérale, où l'auteur rend un compte succinct des origines de nos prospérités et des motifs qui ont jeté le Caucasien sur les chemins de l'exil. Il est là, fourbu, silencieux. La lueur mouvante d'une bougie éclaire chichement la chambre du charpentier dans ses foyers pour travailleurs immigrés. Ces Caucasiens d'ethnie suisse parlent un patois allemand et prétendent qu'il a fui la famine et la violence à l'ère du jet et du net. Il garde pourtant intact l'aura qui fascina nos infirmières et nos humanitaires. Appelons-le Yakuba, primo pour préserver son identité, Dezio parce qu'il a un patronyme à coucher dehors. Il est né dans une insalubre favela des environs de Zurich, où la mortalité infantile et les taux de prévalence du virus du sida restent parmi les plus élevés, selon les études de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, installée, comme chacun le sait, chez nous, dans la bonne et paisible ville de Banjul, qui accueille également la crème de la diplomatie internationale, censée décider du sort de millions de réfugiés caucasiens, d'ethnies diverses et variées, autrichiennes, canadiennes, américaines, norvégiennes, belges, bulgares, britanniques, islandaises, hongroises, suédoises, sans mot dire des pot people squelettiques de la Méditerranée septentrionale qui n'en peuvent plus de zigzaguer devant les mortiers et les missiles enténébrant les infortunés terres d'Air Amérique. D'aucuns détalent, errent et s'épuisent, puis se rendent tout de go en attendant que les néons ne les faugent. Des prostituées de tous sexes, monégasques et vaticanesques, s'échouent sur les plages de Gerba et dans la baie bleue cobalt d'Alger. Ces pauvres diables sont en quête du pain, du lait, du riz ou de la farine distribués par les organisations caritatives afghanes, haïtiennes ou sahéliennes. Des petits écoliers français, espagnols, bataves ou luxembourgeois, malmenés par le kwashiorkor, la lèpre, le glaucome et la poliomyélite, ne survivent qu'avec les surplus alimentaires des fermiers vietnamiens ou éthiopiens depuis que notre monde est monde. Ces peuplades aux mœurs guerrières, aux coutumes barbares, aux gestes fourbes et incontrôlables, ne cessent d'éraser les terres calcinées d'Auvergne, de Toscane ou de Flandre quand elles ne versent pas le sang de leurs ennemis ataviques, teutons, gascons et autres hyper-arriérés, pour un oui ou pour un non, pour un rire ou pour un rien, parce qu'on reconnaît un prisonnier ou parce qu'on ne le reconnaît pas. Tous attendent une paix qui n'est pas de séjour. Je voudrais vous introduire les personnages principaux, qui est une enfant adoptée. Et voilà la réflexion que se fait le narrateur. Les enfants, d'où qu'ils viennent, n'appartiennent pas à leur géniteur, à leurs parents. Ils s'appartiennent, c'est tout. Ils enchantent nos âmes lasses. Ils naissent, glissent sur des parquets d'acajou ou se vautrent dans la poussière, grandissent, partent, font à leur tour des enfants qui ne leur appartiennent pas, puis meurent. Qu'ils dorment sous des dalles mauresques ou dans des palaces dahoméens ou à la belle étoile ne change rien à l'affaire. Le lieu de naissance n'est qu'un accident. La vraie patrie, on se la choisit avec son cœur et son corps. On l'aime tout de suite ou on la quitte. Et puis, ce que nous endurons, de cela tu es certaine, Maya, ne se voit pas au présent comme nous voyons les ondes infrarouges ou gamma qui composent notre environnement. Ce n'est que plus tard, quand le bandeau du passé est dénoué, que nous comprenons proprement. Nous scrutons les formes menues que prend le temps, nous ramassons ainsi les minces cailloux de la mémoire pour en faire un petit tas déchiffrable. Voilà ce que nous apprend la vie si on a la sagesse de l'écouter, de la consigner comme tu tentes de le faire avec tes poupées d'argile et tes dessins. Il t'arrive aussi d'écrire ou de crayonner sur des supports rarement utilisés comme les os longs, les coquillages d'œufs, les carapaces de tortue pour vidanger ta mémoire. De tes escapades au port de la mer Rouge et dans les ventres du Sahara, tu as ramené un petit carnet aux pages couvert d'une écriture serrée et tremblante. Ce genre de carnet de Moleskine, muni d'un élastique, rendu célèbre par Aimé Césaire, Chéri Samba, Jean-Michel Basquiat, Farid Belkahia ou Kateb Yassine. Tous comme eux, tu y couches tes impressions, les haillons de tes souvenirs, tes coups de gueule, des griffes ou des blouses. Au bout de ces voyages à travers les mots et les paysages, tu reviens éreinté, mais gagné par une sérénité à nul autre pareille. Ils n'étaient pas hommes à dorloter leurs phrases, à cajoler leurs étoiles au coin du brasero ou à accoucher d'une progéniture triste comme une ville des garnisons. Leurs créatures leur crispaient les doigts quand ils écrivaient ou peignaient, autrement dit, quand ils portaient sur leurs frêles épaules les fardeaux du destin. Elles leur suçaient le sang, elles rétrécissaient leur carcasse jusqu'à l'os, jusqu'à la corde, jusqu'au sacrifice. Quant à toi, Malaika, tu n'es fait que débuter, mais déjà tu émerveilles en faisant tes gammes. Tu ne veux pas pourrir comme dans la rue, comme un corps de pendu offert au vautour criblé d'oubli. La fin nous guette tous, tel le butoir sous le bout des rails. D'ici là, il nous faut bien travailler, quels que soient les matériaux, l'envie ou la saison. Merci.
Alors, s'il y a des questions dans la salle.
On aura le temps peut-être que d'une question parce que c'est déjà l'heure normalement du film. Donc, ouais.
Bonjour. Alors, ma question s'adresse à Alain Mabankou. J'aimerais savoir si le fait d'écrire aux États-Unis, je ne sais pas si tu écris aux États-Unis, est-ce que ça a changé ta manière d'écrire ? Est-ce que tu as commencé à écrire au Congo, ensuite en France, ensuite aux États-Unis, et le fait de te retrouver dans un pays où on parle une autre langue, est-ce que ça a changé ta manière d'écrire ? Un petit peu comme ce que nous avait dit hier Kanyi Alem, quand il était au Togo, il ne parlait pas dans ses nouvelles, il ne parlait pas du Togo. Donc est-ce que le fait de changer de pays t'a fait écrire autrement ?
Alors, déjà, ce qui est bien, quand on vit dans un pays comme les États-Unis où on parle plutôt l'anglais, lorsque j'écris en français, j'ai l'impression d'entendre la langue française sans le bruit qui est aux alentours. Ça, je la reçois d'une autre manière que lorsque je suis en train d'écrire en France ou en sortant, il y a le choc des mêmes mots que j'ai écrits qui se retrouvent dans les livres. J'ai l'impression presque d'être un petit dépositaire quelque part avec une langue que personne ne comprend aux alentours. La géographie finit toujours un jour par modifier peut-être la vision du monde, mais l'écriture, elle est là. Je veux dire que si on doit rechercher mon écriture, ce n'est ni en France ni aux États-Unis qu'il faut aller la rechercher. Il faut vraiment aller la creuser plutôt dans mon enfance, dans mon pays natal, le Congo-Brazzaville. C'est vraiment la source même. J'ai même l'impression que mon combat existe entre ce que j'ai chez moi au Congo-Brazzaville, les langues qui fourmillent, parce que je parle à peu près 5 ou 6 langues du Congo-Brazzaville. Et parfois, pour me mettre en condition, j'écoute de la musique de chez moi, hein, qui me donne un certain air. Parce que au départ, je n'écrivais pas des romans, j'écrivais de la poésie. Donc, de ce fait, je dois à la poésie la sensibilité de l'oreille et puis peut-être cette espèce d'inspiration. Je ne fais jamais de plan. Quand j'écris, je ne sais pas ce que je vais écrire à la deuxième page. Je ne sais pas comment ça va se passer de l'autre côté. Je suis comme le poète, parce qu'un poète, quand il écrit un plan, il ne fait pas un plan. Première partie, l'oiseau va s'envoler. Deuxième partie, se pose sur un arbre. Non, il est là, il est habité par une espèce d'inspiration. Je suis plutôt charmé par l'écriture, par instinct et inspiration, et non par prédiction. Hein, je connais des écrivains, ils savent déjà au chapitre 13, il y aura 14 morts, au chapitre 15, l'enterrement, puis à la fin, il faut ressusciter parce qu'il faut prévoir la suite du livre. Non, moi, je pars toujours dans cette espèce d'instinct. Et la langue française que j'utilise, j'ai l'impression que je l'ai tellement galvaudée que lorsque je l'utilise dans mes livres, il y a quelques poussières de mes langues africaines qui s'y mêlent pour donner un autre rythme, un autre tempo. Vous savez, vous avez la guitare, il y a 5, 6 cordes, ça dépend, mais ça fait longtemps que je joue à la guitare, mais chacun vient mettre son rythme. On a la même langue française, je veux dire, que ce soit Djibouti, que ce soit ici, les Modiano et autres, on a la même langue française, mais chacun de nous a sa tonalité, a sa manière de trouver ses rythmes. Et c'est très bien d'écouter la langue française hors de la France, parce qu'on ne se sent pas prisonnier d'un certain esprit d'écriture. Parce qu'on ne regarde pas ce qui se dit et on a l'impression de trouver quelque chose de neuf qu'on ramène chez soi, aussi bien en Afrique, et qu'on vient donner également en France. Une langue est très, très belle lorsqu'on s'éloigne du groupe qui en parle. Et là, on se rend compte qu'un mot aussi simple que le jour devient très rayonnant. Si vous parlez du jour en face d'un hiver avec des gens qui sont pressés, ça n'a plus la même chose. Mais si vous êtes loin, Californie, 11 heures et quelques de voyage à l'intérieur, le voisin parle l'anglais, l'autre crie de l'autre côté et le mot français tombe sur la page.
Réjouir voilà. Était proche des jours.
Ah, j'ai pas ajouté le « i hein. ». Voilà, un peu ça. Je suis vraiment dans ce sens du privilège de parler la langue. Et puis, je l'enseigne aussi. Je veux dire, les littératures francophones que j'enseigne à Los Angeles, j'enseigne ça en français. Ça me permet de garder le contact. C'est pour ça que vous voyez que j'essaie de parler sans mettre les américanismes. Je connais des amis, si, 3 jours après les États-Unis, quand ils viennent ici, tous les 2 mots, ils ajoutent un mot en américain. Je pense que ce sont des comédiens qui n'ont pas de talent, simplement. Merci.
On va céder la place alors au film. Donc tous les ouvrages sont en vente à la librairie et je vous rappelle en effet que la pièce Vercassé tirée du livre d'Alain Mabankou se joue jusqu'au 15 décembre à la Fondation Dapper dans le 16e arrondissement. Voilà.